Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. Apprendre, ça se passe à l'école, mais pas que. Apprendre, ça se joue dans notre cerveau, mais pas que. On peut imaginer que l'environnement dans lequel on évolue a un rôle à jouer dans la façon dont on apprend. Que ce soit ce que nous mangeons ou les produits que nous respirons, voire même le milieu social dans lequel nous vivons. Le fonctionnement de notre cerveau peut être modifié par des influences extérieures.
Tout l'environnement va impacter notre cerveau, de toute façon, quel qu'il soit, que ce soit physique, chimique ou biologique. Moi, je m'intéresse effectivement plus particulièrement à l'impact de l'environnement chimique, donc tout ce qui est molécules qui sont présentes dans l'environnement, que nous le voulions ou non. Donc ça peut être des composés alimentaires ou bien ça peut être des biocides qu'on pourrait retrouver comme résidus dans l'alimentation. Mais je tiens en compte effectivement aussi l'impact du social. Donc comment le fait d'être une mère avec ses descendants va modifier la façon dont le cerveau va être impacté par ces molécules.
Thierry Charlier est professeur à l'Université de Rennes et travaille sur l'impact des hormones et de l'environnement sur le cerveau. Sur l'ensemble du cerveau ?
Alors, a priori, à peu près toutes les zones du cerveau peuvent être impactées. On s'intéresse plus particulièrement à l'hippocampe, notamment parce que c'est une région qui est extrêmement plastique, donc chez toutes les espèces, donc y compris chez les humains, puisque c'est impliqué dans la mémorisation, notamment, c'est impliqué dans les émotions, et ça, c'est quelque chose que nous vivons tous les jours, quelle que soit l'espèce que l'on soit. Et donc, tout ça va modifier au cours du temps cet hippocampe. Et donc, si c'est modifiable, ça veut dire que l'environnement pourrait aller changer certaines de ces modifications. C'est non seulement des connexions entre différents neurones, mais c'est aussi certains neurotransmetteurs qui vont être libérés ou reçus de façon différente. C'est aussi d'autres types cellulaires que les neurones, bien évidemment, parce qu'on s'intéresse souvent aux neurones. Mais il y a la moitié du cerveau, en fait, ce n'est pas des neurones, c'est des cellules qu'on appelle des cellules gliales. Donc il y a des astrocytes, il y a des cellules microgliales, il y a des oligodendrocytes, il y a bref toute une série d'autres cellules qui sont fondamentales pour le fonctionnement du cerveau. Donc les molécules peuvent rentrer dans le cerveau et agir directement sur un neurone ou agir directement sur une cellule gliale et l'empêcher de fonctionner. Soit ça peut se faire de manière indirecte, puisque le cerveau, en fait, c'est un petit peu le chef d'orchestre, mais le chef d'orchestre, il a besoin de savoir ce qui se passe dans le reste du corps et il reçoit plein d'informations de tous les autres organes. Et donc, si un autre organe est impacté, on pense particulièrement au foie ou au système digestif de façon très générale, eh bien, cet impact sur le système digestif va envoyer des mauvaises informations vers le système nerveux et qui lui-même va montrer quelques problèmes. Et on travaille donc non seulement sur des aspects potentiellement négatifs de certaines substances, donc est-ce que tel type de pesticide retrouvé dans l'environnement va impacter potentiellement le cerveau. On travaille sur différents types de pesticides, notamment glyphosate et néonicotinoïdes. Donc ça, c'est l'impact potentiellement négatif, mais on travaille aussi sur les aspects potentiellement positifs. Aussi, donc en travaillant notamment sur les modifications du microbiote intestinal, l'ensemble des bactéries et autres types d'organismes que nous avons à l'intérieur de notre système, qui vont en fait être capables d'envoyer certains types de molécules, certains signaux vers le cerveau et qui vont modifier, une fois encore, ce n'est pas un système on-off, mais ça va aider ou pas la façon dont le cerveau peut être un petit peu plastique. Et donc, une bonne alimentation et certaines bactéries vont en fait potentiellement impacter de façon positive la façon dont le cerveau va pouvoir fonctionner.
Le cerveau, notre tour de contrôle qui nous permet d'apprendre, ne serait donc pas une forteresse isolée et protégée dans notre boîte crânienne. Ces connexions ou ces mécanismes peuvent être modifiés par l'environnement, en bien comme en mal.
Alors, on ne sait pas toujours si ça se passe mal. On sait très souvent que ça se passe pas de façon normale, mais est-ce que ça se passe mal? Et c'est là que, en fait, au niveau réglementaire, que le souci se pose. Il y a beaucoup d'études qui montrent, ben, tiens, cette molécule-là, elle modifie les connexions neuronales, mais est-ce que c'est mal? C'est difficile à dire. Il y a beaucoup de choses qui, comme je vous l'ai dit, l'apprentissage modifie aussi les connexions neuronales. Est-ce que c'est mal? Bah, non, a priori. Donc, c'est un peu la même chose avec les molécules chimiques. Mais clairement, il pourrait y avoir un effet délétère, donc des soucis d'apprentissage, comme des soucis d'interaction sociale, des soucis émotionnels, des soucis du cerveau, et l'apparition, bien évidemment, de certaines pathologies. À la maladie de Parkinson ou maladie d'Alzheimer. On ne sait pas encore, dans la majorité des cas, ce qui provoque le développement de certaines de ces pathologies. Et il n'est pas impossible que certains composés chimiques dans l'environnement soient responsables du développement de ces pathologies. Quelque chose qui est important, c'est de savoir quelles vont être les conséquences à long terme de ce genre d'exposition. Est-ce qu'en ayant une exposition à un moment donné, ça va modifier le cerveau ou certaines régions du cerveau, et puis ça va revenir à la normale, ou bien est-ce que vous allez avoir des conséquences sur le très long terme avec, une fois encore, le développement de certaines pathologies beaucoup plus tard dans la vie, parce qu'en fait, il y a une exposition précoce à certaines de ces molécules.
Cultive et préserve ta santé avec l'INSERM. Nous avions parlé plus tôt de l'école. Cette étape importante dans nos apprentissages et qui nous occupe une partie de notre vie. Mais une fois l'école quittée, il n'est heureusement pas impossible de continuer à apprendre. On peut se demander quelles sont les différences sur la plasticité de notre cerveau en fonction des périodes de nos vies.
Certaines périodes de la vie d'un individu qui sont extrêmement plastiques, on pense plus particulièrement à un bébé en cours de développement, donc que ce soit au niveau placentaire ou jusqu'à l'adolescence et même encore un petit peu après. Donc ce sont les périodes vraiment les plus sensibles, ce sont les tout jeunes enfants. Mais ça ne veut pas dire que par la suite, il n'y a pas d'autres périodes qui sont sensibles ou avec une sensibilité un peu plus élevée. Je pense plus particulièrement pendant la période reproductive, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. La période périménopausale est également importante. Donc il y a quelques petits pics de sensibilité. Le plus gros, c'est clairement très tôt durant le développement de l'enfant. Si on parle de changements hormonaux, en fait, même pendant la période embryonnaire, il y a le développement des testicules qui se fait, où au moment de la naissance, les testicules commencent à fonctionner. Donc, on a des pics hormonaux qui sont extrêmement importants, et puis ça retombe pendant la période de l'enfance, et puis effectivement, ça remonte au moment de l'adolescence. Et donc, ces différentes phases de modification hormonale peuvent être impactées par des molécules. Alors là, on parle plus particulièrement de perturbateurs endocriniens. Et parce que vous perturbez le système endocrinien, vous allez aussi perturber le développement du cerveau, puisque notre cerveau est capable de répondre à toutes ces hormones. C'est une communication dans les deux sens entre le cerveau et le reste du corps, et les hormones sont clairement un des moyens de communication importants. Pour donner un exemple très concret, pendant la période de la ménopause, chez certaines femmes qui ont une chute hormonale relativement brute, vous allez avoir une modification cognitive relativement importante. Et puis qui va se restabiliser par la suite. Mais ça démontre en fait que les hormones et l'influence de ces hormones va impacter la façon dont notre système nerveux fonctionne, notre cerveau fonctionne. Et si on rajoute la composante sociale, si on rajoute la composante émotionnelle aussi, puisque bien évidemment ces hormones-là, elles sont importantes, alors peut-être pas directement sur l'apprentissage en tant que tel, mais sur notre motivation à apprendre, nos capacités émotionnelles qui vont modifier la façon dont on va pouvoir mémoriser certaines choses. Le stress, c'est quelque chose qui est bien connu. Si un tout petit peu de stress, on augmente la capacité d'apprentissage, et puis passer de là, on va complètement supprimer. En fait, c'est ça que font les hormones. Elles vont moduler, dans une certaine mesure, la façon dont notre cerveau va fonctionner.
Les émotions jouent aussi un rôle dans la façon dont on apprend, comme nous l'explique Pascal Blanquet, professeur de neurosciences à Rennes 1.
Par exemple, je vais donner un exemple très concret. Cette plasticité dépend d'un mécanisme de renforcement de synapses qui est très connu chez nous, qui s'appelle la LTP, Long Term Potentiation, qui est en fait le fait que des synapses vont se renforcer. Mais ça implique des voies de signalisation cellulaire, des sortes d'enzymes qui s'activent les unes les autres pour mettre en place ce truc-là. Les émotions vont libérer des neurotransmetteurs particuliers, des neuromodulateurs, qui vont agir sur ces synapses-là et consolider ces voies de signalisation. Et donc, ça peut imprimer très fort l'information. Et c'est pour ça que si, par exemple, vous avez vécu un épisode émotionnel fort, vous n'avez pas besoin de revenir des tas de fois dessus, vous allez vous en souvenir à vie. C'est parce que ça a été vraiment consolidé par les émotions. On va se souvenir très longtemps parce que les émotions servent aussi à donner de la valeur à l'information.
Nos connaissances sur le fonctionnement de notre cerveau continuent de s'étoffer avec les progrès de la recherche et de l'imagerie. Si le cerveau a encore bien des mystères à nous révéler, nous commençons à mieux comprendre certains processus hormonaux et biologiques qui se déroulent en son sein. Et parmi ces mécanismes biologiques, il y a les engrammes.
C'est comme un mini réseau de neurones. Donc on a des neurones qui sont prêts à apprendre tout le temps, à chaque instant, dans l'hippocampe. Ils ont des propriétés particulières à des instants donnés et ils ont la capacité d'encoder une information particulière avec leur contexte. Donc ça se passe d'abord dans l'hippocampe. Et donc, lorsque on encode une nouvelle information, il va y avoir des connexions particulières, donc la plasticité dont on parlait tout à l'heure, qui va renforcer les connexions entre ces neurones et former un motif. Et ce motif neuronal, c'est un engramme. Donc on a la capacité non seulement de les voir, ces engrammes, mais aussi de les contrôler chez l'animal, pas chez l'homme. Quand on commence à parler de cellules, généralement on parle de l'animal. Ces motifs, donc ces engrammes-là, qui ont encodé une information particulière, sont dus à une sorte d'hyperconnexion entre les neurones qui vont coder une information spatio-temporelle particulière et qui va être ensuite projetée dans un système plus large qu'on appelle engramme système, qui lui est distribué dans le cerveau et qui va permettre de mettre en lien ces informations dans nos espaces sémantiques, dans notre savoir. Ces engrammes ne sont pas placés n'importe où dans le cerveau. Ils ont une sorte de lien statistique qui va faire qu'un savoir particulier va être positionné dans un espace qui a à peu près le même sens. Donc on va retrouver un peu ce qui est relatif aux animaux dans le même sens, avec ce qui est relatif aux humains, aux visages humains, etc. Et ensuite, on va avoir des espaces sémantiques de plus en plus touffus en fonction de notre histoire, de nos savoirs. Et on va pouvoir ainsi avoir une pensée complexe de mise en relation avec des informations que l'on aurait stockées dans le cerveau.
Cette rentrée de l'information, un pré-traitement de cette information, et puis surtout le phénomène de reconsolidation, et ça, c'est en grande partie, en fait, durant le sommeil. Il y a encore énormément de questions à ce niveau-là pour savoir ce qui se passe exactement et pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette période de sommeil. Mais c'est pendant cette période de sommeil qu'une grande partie des engrammes et des connexions synaptiques vont non seulement se faire, mais surtout se consolider.
À différents stades de sommeil, il y a des rythmes entre le thalamus, qui est au centre du cerveau, et le cortex, en passant par de nombreuses autres structures cérébrales, qui vont permettre de consolider l'information et d'adapter, d'ajuster la force de connexion des synapses, ce qu'on appelle le synaptic scaling. Le sommeil, il est crucial, vraiment, toute la phase de consolidation des apprentissages. C'est-à-dire qu'on apprend durant la journée, donc on commence à graver des infos, mais en fait, ce qui va rester, pendant la nuit, on va soit consolider, soit au contraire effacer, en fonction de l'importance de l'information, l'importance inconsciente. On ne juge pas de manière consciente de toutes ces infos, ce qui implique que tout ce qui perturbe le sommeil perturbe les apprentissages.
Une question en amène une autre. Pour nous permettre d'apprendre, notre cerveau met en place des ponts entre ces neurones. Stéphanie Doma, professeure de neurosciences à Sorbonne Université, étudie les connexions et liens entre les différents types de neurones qui peuvent exister et leurs propriétés étonnantes.
Ce qui nous intéresse, nous, dans la transmission glutamatergique, alors il y a énormément des millions, des milliards de neurones glutamatergiques dans un cerveau de mammifère, par exemple, c'est qu'il existe un sous-type de neurones glutamatergiques qui, en fait, a été défini comme des neurones bilingues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un neurone, normalement, il est capable de libérer un neurotransmetteur, pour simplifier. C'est un principe qui a été largement établi en science. Et il y a quelques dizaines d'années maintenant, certains chercheurs ont découvert qu'il y avait des neurones qui étaient capables de libérer plusieurs neurotransmetteurs. Alors, c'était déjà connu avec des peptides. Mais par contre, le fait qu'un neurone, par exemple, inhibiteur, donc les neurones qu'on appelle les neurones GABAergiques, pour donner un exemple, qui vont, eux, non pas stimuler le neurone d'après, mais au contraire inhiber la transmission synaptique. Donc, c'est très important. On est dans un système de balance, en fait, entre excitation et inhibition. Et bien, certains de ces neurones inhibiteurs étaient également capables de libérer du glutamate. ça peut paraître assez paradoxal, puisqu'un neurone inhibiteur qui libère finalement une molécule qui est excitatrice, ça pose certaines questions. Et donc, c'est vraiment la question que nous, on se pose dans l'équipe, c'est essayer de comprendre pourquoi certains neurones, et il se trouve qu'il n'y a pas que les neurones GABAergiques, il y a aussi d'autres types de neurones, libèrent également du glutamate. Quelle est la fonction de ce glutamate qui, dans ce cas-là, ne serait plus un neurotransmetteur, mais plutôt un neuromodulateur qui permettrait de moduler un petit peu le fonctionnement. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a ces neurones bilingues dans le cerveau ? Il n'y en a pas beaucoup. Plus on cherche, plus on en trouve. Et surtout, pourquoi est-ce qu'on les retrouve dans des circuits qui sont fortement impliqués dans, par exemple, la mise en place de certaines mémoires, et en particulier les mémoires aversives, ou dans la mise en place des habitudes, puisqu'on en trouve aussi dans le striatum, par exemple, et la mise en place, au-delà des habitudes, de certaines compulsions, hein, c'est-à-dire quand on bascule finalement dans la pathologie. Hein. Donc c'est pour ça que nous, dans l'équipe, on est intéressés pour essayer de comprendre le rôle de ce bilinguisme, on va dire, dans ces neurones, et comment un dysfonctionnement de ce bilinguisme peut entraîner des pathologies reliées au stress ou à l'addiction.
Quand on a besoin de faire appel à une mémoire ou à une connaissance, le cerveau se met à solliciter ses neurones, souvent dans plusieurs zones. Mais parfois, le cerveau s'emballe un peu trop. De multiples connexions peuvent se créer d'un coup d'un seul et provoquer convulsions, contractions ou hallucinations. Ça, c'est l'image la plus commune que l'on a de l'épilepsie. Mais il n'existe pas qu'une seule forme d'épilepsie, tant les symptômes et les causes sont en réalité multiples.
En ce moment, je travaille beaucoup sur une épilepsie qu'on appelle épilepsie absence de l'enfant, qui crée des ruptures de conscience. On a identifié un petit peu les zones corticales principales nécessaires au traitement conscient de l'information, et on essaye de comprendre comment l'activité épileptique est capable d'interrompre la communication dans ces réseaux de la conscience. Ce qu'on fait globalement, c'est qu'on fait des enregistrements chez l'homme, on enregistre l'activité électrique et on essaye de comprendre en quelque sorte quels sont les mécanismes cérébraux qui génèrent ces anomalies électriques. Et une fois qu'on a compris, on essaye de modéliser ça parce qu'on a créé pour la première fois un cerveau virtuel humain complet qui comprend toutes les connexions, les catégories de neurones principaux avec leur connexion, la manière dont ils ont de se parler, pas mal de structures sous-corticales également, et l'anatomie du cortex. Et on peut, à partir de ces simulations, comparer ça avec ce qu'on obtient chez les patients et en inférer ou en déduire les mécanismes neuropathologiques qui sont derrière. Une fois qu'on a compris ça, on émet des hypothèses, on les met dans le modèle, et on essaye de reproduire et d'expliquer en fait les mécanismes. Dans quel but ? Dans le but d'empêcher ces crises. Et comment on peut les empêcher ? Eh bien, on peut les empêcher soit avec, disons, des stimulations neurocognitives particulières, soit dans le cadre d'autres épilepsies, ça c'est le projet Galvani européen sur lequel on travaille, soit avec des stimulations transcrâniennes, c'est-à-dire qu'on met des électrodes sur le crâne et on essaye de calmer les zones qui ne marchent pas bien.
Carnet, digé. L'apprentissage fait partie de nos vies. Elle est intrinsèque à notre condition d'être vivant, à la fois pour vivre et pour évoluer. Ce qui nous semble être une banalité est en réalité une fine et complexe partition de musique, faisant appel à plusieurs instruments de notre corps, avec le cerveau en grand chef d'orchestre. Nous pouvons être influencés par notre environnement, changer ce que l'on a déjà appris ou parfois devoir s'adapter quand notre cerveau adopte un fonctionnement un peu différent. Une mélodie de notre corps qui fascinera encore pendant longtemps la recherche et ses scientifiques. Une symphonie que nous continuerons d'écouter dans nos carnets d'IG. Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM. C'est la fin de cet épisode et de la saison 3 de Carnet d'IG, le podcast de l'INSERM consacré à la découverte des mécanismes de notre corps. Nous remercions Stéphanie Doma, Thierry Charlier et Pascal Banquet pour leurs interventions dans cet épisode. Une coproduction de l'INSERM et du Labo des Savoirs que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que les épisodes et saisons précédentes. À bientôt !